I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu. Aujourd'hui, les journalistes de 20 minutes, mes collègues Caroline Politi et Hélène Sergent, racontent le procès des attentats de janvier 2015. Les attaques à Charlie Hebdo, d'une policière à Montrouge, de la supérette hyper cachère ont fait 17 morts. Les principaux responsables des attaques, les frères Kouachi et Amédi Coulibaly, sont morts. 5 ans après, un procès. Dans le box des accusés, 10 personnes, 3 autres sont en fuite ou présumées mortes, 1 seul comparé libre. Elles sont jugées pour avoir apporté un soutien logistique aux terroristes. 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité ont été requis contre elles. Verdict le 16 décembre. Ce procès, il est historique à plusieurs égards. C'est le premier procès de la vague d'attentats qui a endeuillé notre pays en 2015. Fait rare, ce procès, il est filmé pour l'histoire, comme l'a pu l'être le procès de Klaus Barbie en 87. Et il se déroule dans un contexte sanitaire et sécuritaire extraordinaire. Il y a la crise du Covid-19 qui pose des questions, notamment sur le port du masque dans la salle d'audience. Et puis, il y a eu 3 attentats en France pendant ce procès, dont 2 directement liés aux caricatures publiées par Charlie Hebdo. À 20 minutes, 2 journalistes spécialisés travaillent sur cet événement judiciaire depuis plus d'un an.
Bonjour, Hélène Sergent, je suis journaliste à la rubrique Justice de 20 minutes à Paris.
Bonjour, moi je suis Caroline Politi et je suis également journaliste pour la rubrique Police-Justice de 20 minutes.
Caroline et Hélène reviennent dans cette deuxième partie du podcast sur les vérités fragiles, les mensonges des accusés, sur les énigmes et les questions en suspens de ce procès.
Dans ce dossier, la problématique initiale, c'est que les 3 auteurs principaux sont morts, puisqu'ils ont été tués par les policiers au moment des attentats. Reste donc dans le box des hommes, donc 14 personnes, 11 seulement présents, puisque 3 sont présumés morts ou en fuite en zone irako-syrienne. Sur ces 11 personnes présentes, les charges qui pèsent contre elles sont assez différentes. En tout cas, le degré d'implication n'est pas le même pour tous les accusés. Là où je trouve que les débats ont été complexes, c'est que l'instruction a été longue et au cours de cette instruction, la majorité des accusés ont livré à différents moments de l'instruction différentes versions. Différentes versions dans lesquelles parfois, et l'enquête a permis de le démontrer, certains d'entre eux ont menti et certains ont beaucoup menti. Plus que d'autres. Et ça s'est ressenti aussi à l'audience, cette confusion entretenue. Ils l'ont expliqué pour différentes raisons. D'ailleurs, mentir, c'est un droit. On n'est pas obligé de dire la vérité. On a le droit de ne pas s'auto-incriminer.
Ou de se taire.
Ou de se taire aussi. Alors, tous ont fait le choix de parler. Donc, c'était déjà un point important, je pense, pour les parties civiles. Et donc, difficile pour la cour de démêler ces mensonges. Et d'ailleurs, les magistrats l'ont dit à plusieurs reprises. Le premier assesseur, à la fin des interrogatoires, l'avant-dernier interrogatoire, a parlé de sable mouvant pour parler des versions dans lesquelles s'étaient empêtrés les uns et les autres. Et c'est vrai, c'est difficile aujourd'hui de faire le tri entre ces mensonges proférés au moment de la garde à vue ou pendant l'instruction pour se protéger, pour ne pas incriminer d'autres personnes qui n'étaient pas impliquées dans le dossier, pour ne pas balancer, comme ils l'ont expliqué à plusieurs reprises, et essayer de comprendre quel rôle chacun avait pu jouer dans la préparation logistique de ces attentats.
Ouais, en fait, ce qui est dur, c'est que ces 4 ans et demi d'instruction n'ont pas permis de lever toutes les zones d'ombre. Beaucoup de points qui restaient flous. Alors, il y a eu certains points qui ont été éclairés pendant l'audience. Certains accusés ont reconnu des faits qu'ils niaient depuis le début. Par exemple, le principal accusé, Ali Rizapolat, a reconnu qu'il avait été l'auteur d'une liste retrouvée chez un autre accusé dans laquelle il demandait le prix d'armes, d'explosifs, etc. Il l'avait toujours nié. Alors, la graphologie quand même lui attribuait ce document, mais il a reconnu en fait en être l'auteur, mais en expliquant que pour lui, c'était pour commettre des braquages et pas des attentats. Donc, il y a eu quelques éléments qui ont fait avancer réellement la compréhension du dossier. Mais évidemment, il y a quand même des gros points d'interrogation. Il y a une journée qui a été consacrée à la recherche des commanditaires, qui est un gros point sur lequel, en fait, l'instruction n'avait pas permis d'avancer. Et il y a un gros coup de théâtre. En décembre 2018, un Peter Sherif est interpellé à Djibouti. Et cet homme, qui est en fait un membre haut placé d'Al-Qaïda au Yémen, est soupçonné d'avoir été un des commanditaires de l'attaque. Le timing est assez mauvais puisque l'enquête est bouclée, le procès se maintient et il est mis en examen dans les attentats, mais le volet est distinct du reste de l'enquête. Et là, il a été entendu en tant que témoin, puisqu'il y aura un autre procès probablement, et donc en visioconférence. Il ne voulait pas parler. Toute la journée, on a attendu qu'il parle. On comprend au début qu'en gros, il ne veut pas se rendre. Déjà, il y a eu un mandat d'amené pour l'obliger à se rendre dans la salle de visioconférence. Et le président commence, et là, il commence à réciter une prière, il a le Coran dans les mains. Le président essaye de lui poser des questions, d'abord de se présenter, mais ensuite des questions sur vraiment le dossier. Il refuse de répondre, ça dure une vingtaine de minutes, et ce comportement laisse entendre que dans l'autre volet du dossier, sur la question des commanditaires, ça peut interroger en tout cas sur son rôle s'il refuse d'en s'en exprimer. Et ce jour-là, un peu plus tôt dans la matinée, à l'inverse, et c'était très intéressant, on a entendu une femme, ce qu'on appelle une revenante, c'est-à-dire qu'elle avait passé 6 ans en Syrie. Lors de son interpellation, elle a expliqué à la DGSI qui l'interrogeait que, en fait, elle avait été mariée à un homme qui lui avait révélé être le commanditaire de l'attaque de l'hypercacher, puisque l'hypercacher a été revendiqué par l'EI et les actes des frères Kouachi par Al-Qaïda. Elle explique, ce qui est d'ailleurs quelque chose qui était assez surprenant, elle explique que Kamedi Koulibaly et les frères Kouachi, qui se connaissaient depuis de longues dates, notamment un séjour en prison, ont décidé de faire ça pour réunir les deux groupes terroristes. Il voulait les unir. Elle explique qu'en gros, cet homme lui aurait confié un soir de colère que c'était lui qui avait commandité ces attaques, qu'il avait recruté Hamedi Koulibaly. Donc évidemment, c'est des éléments qui vont, dans tous les cas, doivent être confirmés, qui doivent être recoupés. En tout cas, on a vraiment eu l'impression ce jour-là d'avancer, en tout cas de mettre une pierre sur la question de la recherche des commanditaires.
Est-ce que ce procès a apporté des réponses ?
Ça en a apporté quelques-unes, mais ça n'a pas levé les zones d'ombre principales qui planaient sur le dossier au moment de l'instruction. Et ça a permis en tout cas de comprendre un peu plus le rôle et les implications des uns et des autres accusés dans ce dossier. Mais ça n'a pas permis de comprendre tous les tenants et les aboutissants de comment ces attaques se sont préparées, qui les a commanditées, pourquoi, avec quel financement, voilà, tous ces éléments-là, on n'a pas eu les réponses à l'audience, c'est sûr.
On a parlé dans le podcast d'hier des nombreuses victimes qui ont pris la parole durant les 3 premières semaines de procès. Que dire des accusés qui sont présents à ce procès ?
On a beaucoup parlé des parties civiles et il faut quand même rappeler qu'on avait quand même 11 personnes qui étaient présentes, jugées, dont 10 dans le box, et que finalement c'est eux le cœur du procès, c'est eux autour de tout tourne. Moi, ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est la diversité des profils. C'est que on avait Alireza Polat, qui était quelqu'un des coups de colère, qui a été jusqu'à menacer une enquêtrice de la sous-direction antiterroriste, qui surjouait le côté bandit, peut-être pour faire également un peu oublier le côté les accusations qui pesaient à son encontre. On avait un homme, à l'inverse, Michel Catineau, un Belge doyen des accusés, qui était un accro au jeu, qui a toute sa vie magouillé, mais qui était extrêmement différent, enfin, qui avait aucun lien avec l'islam radical dans sa vie. Il y avait vraiment des délinquants qui vivaient du trafic de drogue. Il y avait, tous avaient, ou quasi, avaient un casier assez fourni, mais des profils très, très variés. C'était peut-être ça qui était surprenant. Beaucoup ne se connaissaient pas. Il faut quand même voir que dans le box, ils étaient 10 dans le box et un, donc, qui était jugé libre, et que personne ne connaissait tout le monde.
Et l'autre chose qui illustre notamment les zones d'ombre qui persistent sur ce dossier-là, sur les 11 personnes présentes, la quasi-totalité sont renvoyées pour leur lien supposé avec Hamedi Koulibaly. Et un seul, dans cette enquête, a été renvoyé pour des liens supposés avec Saïd Kouachi. Ce qui illustre quand même comment tout un pan de l'enquête n'a pas été éclairé malgré les investigations et l'instruction qui a duré très longtemps. Quoi.
Le volet Kouachi reste encore aujourd'hui très, très méconnu.
Ouais, Et ça illustre d'ailleurs les difficultés pour les enquêteurs, malgré une instruction très longue, de lever le voile sur l'implication et les complicités éventuelles dont ont pu bénéficier les frères Kouachi. Et pour l'heure, ça reste la principale énigme de ce dossier.
Merci à Caroline Politi et Hélène Sergent, journalistes à 20 minutes. Vous pouvez les retrouver dans la première partie de ce podcast diffusé hier dans Minute Papillon avec un point d'exclamation. Ce premier podcast était consacré à leur travail, à la parole des victimes. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis, les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.